Attention, mesdames et messieurs. Gravarotte et Gravaro. Faranchine et Faranchin. C'est un privilège, c'est un honneur de vous présenter ce soir la seule, l'unique radio. Radio BAM est diffusé sur Radio Zaza.
Mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue en cette deuxième soirée des rencontres de la Haute-Romanche. C'est Radio BAM ici présent avec moi-même Vladimir en compagnie de Pierre à la technique, qu'on remercie d'être à la technique, et à Samia à côté de moi. Samia, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vais vous rappeler deux, trois petits détails concernant la radio, ce qui est la plus haute radio éphémère de France, c'est Radio Haute-Romanche, à écouter chaque jour jusqu'au 12 juillet sur Radio Zinzine à 12h30 sur 101.4 de la bande FM à Briançon et sur Radio BAM à 14h que vous pouvez écouter sur radiobam.org et tout le reste de la vie sur l'audioblog Radio Haute-Romanche, sur les audioblogs d'Arte Radio. Elle reprend du service à plus de 1600 mètres d'altitude pour la 17e édition des Rencontres de la Haute-Romanche à Villard-d'Arène dans les Hautes-Alpes. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de ce qui se passe ici sur le lieu des rencontres et même plus, des interviews, des musiques, des témoignages d'habitants, la douce voix de Samia et le travail très sérieux de Pierre et les élucubrations de moi-même. Nous travaillons chaque jour pour créer une heure de contenu radiophonique, alors nous vous recommandons vivement d'aller écouter cette émission extraordinaire. Et pour ceux qui l'écoutent actuellement, eh bien, bravo à vous. Alors Samia, dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui sur les Hautes-Romanches ?
Eh bien, il semblerait que toute la journée, des ateliers clowns se soient déroulés.
Il me semble en apercevoir, d'ailleurs.
Et qu'il y ait eu une restitution à 16h30. Et il semblerait même que ce protocole se reproduirait demain. Donc à ceux qui n'ont pas eu la chance ni d'assister au spectacle. ni de se produire en tant que clown, l'opportunité est reproduite demain.
Dimanche.
Donc si vous voulez rire, ou à défaut de rire, provoquer le rire, rendez-vous à 9h30 pour ceux qui veulent participer à l'atelier, et puis à 16h30 pour ceux qui veulent regarder ce que ça peut donner.
Voilà, nous y étions, et c'était très très drôle, et c'est un atelier animé par Étienne et Mathilde.
Qui ont aussi des noms de famille, Étienne Ranger et Mathilde Dromard.
Bravo. Moi, je ne les avais pas. Ce soir, samedi à 20h, découvrez aussi le spectacle de la fabuleuse histoire d'Edmond Rostand, illustre auteur de Cyrano de Bergerac. Alors, on connaît très bien Cyrano, mais on connaît très peu Bergerac. C'est de Saint-Michel de Montagné à Montpazier et de Quessac à Émet. Le pays de Bergerac, au sud-ouest du Périgord, cultive de nombreux attraits dans les sillons d'une histoire passionnante et savoureuse. Alors, je parle de Bergerac. Hein. Riche d'une grande diversité, le pays de Bergerac entretient cette savante alchimie qui lie passé, présent et avenir de voies fluviales jadis consacrée aux échanges économiques, la Dordogne, aussi dit la rivière Espérance, a volontiers abandonné sa mission de désenclavement au profit de l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord, du rail et de la route. Oui, je suis en train de faire une annonce pour Bergerac, hein, on s'entend. Donc voilà, ne ratez pas ce soir le spectacle mêlant musique et texte à 20h au chapiteau. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir ou qui l'ont tout simplement raté, il sera au Théâtre des Bernardines à Marseille en octobre.
Et en attendant, avant et après le spectacle, il semblerait que le chapiteau bar nous réserve quelques surprises. Alors à savoir un poste retouche maquillage occupé présentement par
Philippe,
personnage principal de la pièce que nous allons voir. Si vous voulez entrer dans sa peau quelques secondes après lui, c'est une occasion à saisir. Des petits transats d'écoute qui vous offriront l'occasion de découvrir les pastilles qui sont le résultat d'ateliers menés avec Alain Gautré, ou de réécouter le meilleur de ce qu'on a produit jusqu'aujourd'hui. Ce qui semble plutôt pas mal.
Oui. Vous pouvez aussi trouver de la soupe
Alors, il semblerait que ce soit une soupe froide.
C'est une soupe froide.
C'est une soupe froide hispanique.
D'accord. Celle d'hier était délicieuse, en tout cas, on vous encourage à aller au bar aussi et découvrez surtout sur le site ce soleil magnifique et cette bonne humeur et cette joie de vivre que nous partageons avec vous.
Le singe veut le faire.
Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas.
Je me lève, le singe se lève aussi.
Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas.
Je me lave, le singe se lave aussi.
Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas.
Je cours, le singe court aussi.
Il court, le singe court aussi.
Je bosse, le singe bosse aussi.
Il bosse, le singe bosse aussi.
Tout ce que je fais, le singe veut le faire.
Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas.
Tout ce que je fais, le singe veut le faire.
Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas. Le singe veut le faire.
Il n'y a rien au monde que le singe. singe n'imite pas.
Je rentre, le singe rentre aussi.
Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas.
Je me couche, le singe se couche aussi.
Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas.
Je dors, le singe dort aussi.
Il dort, le singe dort aussi.
Je rêve, le singe rêve aussi.
Il rêve, le singe rêve aussi. Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas. Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas. Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas. Il n'y a rien au monde que le singe n'imite pas.
L'antisang avec Renaud Lulu, brave bande pour vous ce soir, en fin de journée, ça commence.
De la radio, du théâtre, de la montagne, de la soupe, de l'art de vivre.
Et t'as oublié quelque chose.
Quoi?
Du clown.
www.rencontreautromanche.com
www.rencontreautromanche.com
Allez-y, courez.
Déjà, pourquoi un nom hawaïen pour une fanfare marseillaise?
En fait, c'est un jeu de mots. Hein. En fait, c'est parce que on s'appelle les Lulu et on trouvait que l'éloignement géographique résumait bien notre envie de nous réunir sur Marseille, ville cosmopolite. Donc, Honolulu, on aimait le son. Et puis, comme à Honolulu, il n'y a pas de trompette. Et que, bon, a priori, il n'y a pas de trompette dans notre groupe, bah voilà, on a choisi ce nom, tout simplement.
Vous habitiez en dehors de Marseille tous? J'ai pas bien compris en fait ce que tu viens de dire.
Bah, on est Marseillais, on est sur Marseille.
On est tous sur Marseille.
Le cœur, bah, le cœur de, c'est Marseille, quoi. Le cœur du projet, ouais, c'est sur Marseille. Bon, alors, il y a quelques satellites, un guitariste Gabriel qui est à Aix. Et puis des amis qui sont allés à Marseille, qui sont repartis. Ça bouge, hein, les Bouches-du-Rhône, on se déplace, voilà.
Bouches-du-Rhône.
Voilà. Et du coup, on répète, c'est vrai, à Septèmes-les-Vallons, des fois. Oula. On répète des fois à Aix aussi. Mmh. Hein, on n'est pas loin, on se déplace. Mmh. Et puis on aime bien voyager, comme aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous partagez avec votre musique?
Alors, qu'est-ce qu'on partage? On aimerait partager plein de choses, hein, à vrai dire. Alors, un peu de joie, de bonne humeur, un peu de décontraction, souplesse, rigolade, amusement, tout ce genre de choses. Bonne ambiance, envie de danser.
Chalouper. Et ouais, et envie de chaleur. Dans
chaleur
le ciel,
humaine, chaleur humaine.
Dans le ciel, le soleil est bien haut. Hein. Mm-hmm. Voilà, on veut faire plaisir aux gens et dans la rue et sur scène. Voilà, apporter de la chaleur et faire danser aussi. Ça passe par là. Hein. Donc on fait de la musique à danser qui parle aussi des îles.
Ouais, autour voilà. de la créolité, la grande créolité, grande pas par sa taille, mais par son registre. C'est-à-dire que ça va de la Réunion, peut-être au Brésil aussi, la Nouvelle-Orléans, exactement.
L'arc antillais.
Ouais, tout l'arc antillais.
Pourquoi la créolité alors?
Ben, c'était notre parti pris, voilà, on se dit tiens, voilà, c'est vrai que ça nous plairait bien tous, on était tous d'accord, banco, allez, on y va.
Une sensibilité de cette musique-là et de ce répertoire, il y en a plein, mais en tout cas de... Voilà, de l'ambiance qui en découle et d'avoir envie. C'est une musique de fête. De fête, c'est la fête.
Depuis combien de temps ça dure toute cette histoire-là, du Honolulu Brass Band?
Ça fait 4 ans. Je crois que la fanfare, le groupe s'est monté, ouais, il y a 4 ans. Et après, bah, il y a eu un peu des mouvements aussi dans l'effectif du groupe. Mais là, sur cet effectif-là, ça va faire 2 ans et demi. On est assez fixe, deux ans.
Un peu plus stable, on va dire. Et...
trouver l'équilibre. L'équilibre entre les membres du groupe, les envies, les agendas.
Le répertoire aussi.
Voilà.
Est-ce que vous étiez déjà venu jouer aussi en altitude? Parce que c'est pas anodin de venir dans l'alpage comme ça.
Chacun en tant que musicien, on est dans d'autres projets. Et puis au long de notre parcours, on a eu l'occasion de jouer à Chantemerle. Exactement. Pas loin dans la vallée, là-bas, à côté de Serre Chevalier. Donc voilà, il neigeait, mais on était à la station, c'était sympa. Mais c'était pas Honolulu Brass Band. Mais aussi haut, je sais pas, on est à combien, 1007
1006, presque 1007, ouais.
Ah ouais, 1007, c'est peut-être. On est bien quand même, on est pas mal.
Avec un verre de bouche, une petite doudoune.
On est bien.
Pour les Marseillais que nous sommes, à peu près à zéro d'altitude, effectivement, là, d'être à 1600, il y a... On sent l'oxygène, notamment pour nous, les cuivres et les vents qui ont besoin de respirer un peu pour jouer. Bon, quand il faut marcher et respirer en altitude, ça se sent.
Mais ce qui est bien avec notre répertoire, c'est que même à 1700 mètres d'altitude, on fait danser et on a envie de danser. Et ça, c'est, ça marche. Et je pense qu'en plus, dans ce joli chapiteau, ça s'y prête très bien, quoi.
Bon, j'ai été très impoli dans cette interview, j'ai oublié de vous demander comment vous appelez. Donc, on finira par ça, du coup. Moi, je suis Pierre, et donc, vous êtes...
Enchanté. Et moi, je suis Fred Buram, et je joue du saxophone.
Nicolas Châtel, donc je joue la grosse caisse percussion.
Et Achille Autin, je fais trombone.
Ok, ben merci à vous tous les trois, vous n'êtes que la face... visible de l'iceberg du Honolulu Brass Band.
Oui, c'est ça, ouais, les 3 septièmes.
Il y en a 4 autres.
Ouais. Donc, ils sont Élise au tuba, ouais. Gabriel à la guitare, Jamel Tawasht aux percussions.
Yes.
Okay. Et puis François Corby qui n'est pas en autre manche ce soir avec nous.
D'accord. Remplacé par Jean-François. Jean-François Bonnel, qui plus est. Clarinettiste de renom.
Et on remercie Radio BAM évidemment pour toute cette animation et voilà cette soirée.
Et maintenant il y a Michael Jackson, alors il va falloir aller danser.
C'est Niagara, je crois.
C'est Niagara. Ah bon,
c'est quand même un peu mieux que Michael Jackson. C'est un peu plus rigolo, quoi. Attention. Ouais, d'ailleurs, Niagara, c'est un petit peu, des fois, un peu créole.
que l'on s'arrête là. Parce que la petite pente là, elle. Là, ça monte.
La montée, l'altitude.
Ça nous sèche.
Il faut qu'on respire. Il faut respirer doucement.
Voilà.
Dernière annonce, et pas la moins importante.
Pas la moindre. C'est le téléphone.
Prose.
Nous allons parler du téléphone prose tout au long du festival. Vous pouvez nous laisser vos messages sur le répondeur des Hautes-Romanches. Le téléphone prose, c'est le 06 51 17 08 68. Alors,
peut-être qu'on peut le redire plus lentement.
Attends, je vais y revenir, ne t'en fais pas. Le téléphone prose à s'y méprendre n'est pas un téléphone rose. C'est un numéro sur lequel vous allez tomber sur un répondeur qui vous indiquera de parler après le bip sonore. Et là, à vous de faire preuve d'imagination et donc de nous laisser un message quelconque. Exemple type, un message d'amour, une petite annonce. Vous pouvez poser des questions. Si vous avez envie de dire anonymement quelque chose à quelqu'un que vous ne l'aimez pas, par exemple, ou tout simplement appeler juste pour entendre l'annonce du répondeur. Vous pouvez aussi montrer que vous savez parler une autre langue et on sait qu'il y a des trilingues parmi vous. Vous pouvez nous raconter une blague ou une blagounette. Il est de bon ton aussi de chercher à faire une rencontre pour les célibataires, n'est-ce pas ? Vous pouvez donner vos mensurations, vos envies, vos désirs les plus fous. Mais là, on se rapproche un petit peu trop du téléphone rose. Alors, j'ai fait une étude très, très, très poussée pour essayer de trouver un mémotechnique pour que vous mémorisiez ce téléphone, ce numéro de téléphone. Alors 06, ben 06 comme le premier numéro d'un téléphone. Hein. Alors il ne faut pas avoir inventé l'eau chaude pour s'en rappeler. Et si vous me dites oui, mais maintenant il y a des numéros qui commencent par 07, nanana, eh bien je ne peux pas grand chose pour vous. 51, eh bien 51 comme le pastis. Le pastis, c'est ce qui rend tonton Hubert heureux tous les soirs. C'est un alcool typique de Marseille. Le 17, eh bien le 17 car nous sommes au 17e rencontre de la Haute-Romanche. Et si vous ne le saviez pas, oui, dis-moi.
C'est aussi la police, non ? Après le pastis.
Ah ça, je n'appelle jamais trop la police. On va rester sur la 17e rencontre. Le 08, eh ben, 08 comme 8h, l'heure du spectacle de samedi ce soir qu'on vous a présenté juste avant. Et 68 comme l'année où les étudiants français ont fini leur crise d'adolescence. Non, ça c'est un peu de la provoque. Une année chère au cœur de Yves d'ailleurs, année 68, qui va peut-être nous proposer une playlist spéciale année 68. On attend d'entendre ça. Voilà, donc 06 51 17 08 68. Et vous n'avez plus d'excuses pour ne pas nous appeler.
Et il semblerait que nous n'ayons pas reçu 10, non pas 15, non pas 20 messages, mais, mesdames et messieurs, deux messages
fabuleux
que l'on découvrira tous ensemble dès maintenant.
Ben, personne ne répond. Allô, bonjour à vous tous. C'est Marité, du bureau de tabac de Villard-d'Arène. Dites donc, je voudrais bien savoir... combien je dois pour la cotisation des rencontres de la Haute-Romanche. Je n'ai pas regardé l'an passé combien que j'ai payé, mais bon, je voudrais bien vous payer. Et à bientôt, bonjour à vous tous, et bon appétit, Marité.
Et donc, voilà, c'était un message de Marité qui demande...
Qui a une réclamation. A priori, sa cotisation n'a pas encore été relevée.
Voilà, donc...
Rendez-vous au bar tabac avec de quoi recevoir un chèque. Oui, mais il faut la convaincre de descendre. Ça, c'est votre travail. Hein.
Donc, on remercie vraiment chaleureusement Marité de nous avoir laissé un message. Donc, à vous maintenant de nous laisser un message vraiment chaleureux. Si vous avez envie de donner de l'argent, pourquoi pas aussi. Nous sommes ouverts à toute proposition. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochaines minutes, Samia ?
Alors, dans les 10 prochaines minutes, je vous souhaite d'avoir très vite fini vos assiettes, car le nouveau spectacle...
La fabuleuse histoire d'Edmond Rostand...
se déroulera sous le chapiteau qui est juste à côté.
Voilà.
Et en attendant dimanche, demain...
Demain.
Et Didier Super, avec « Ta vie sera plus moche que la mienne ».
Ah ben non.
On vous invite à nous retrouver sur les ondes demain. Redis-nous les informations importantes.
Alors, les ondes, c'est très... Est-ce qu'il y en a qui ont mémorisé tout à l'heure ? Non ? Vous pouvez nous entendre à 12h30 sur le 101.4 de la bande FM sur Radio Zinzine ou sur Radio BAM à 14h sur radiobam.org. Et sinon, vous pouvez écouter le podcast sur les audioblogs de Arte Radio.
Et puis, ce sera l'occasion aussi d'écouter quelques petites pépites sonores qu'on ne vous diffuse pas en direct, mais qui sont réservées aux abonnés les plus farouches. À savoir un petit portrait de Marie-Thérèse, qui est donc le personnage formidable qui tient le bar tabac, qui est juste en haut derrière nous.
Au-dessus du village.
Aussi l'occasion d'entendre un petit entretien avec la fanfare d'Honolulu Brass Band qui était là hier soir.
Oui.
Et puis l'occasion aussi de préparer la soirée de demain soir avec...
Avec donc une balade du côté du col de l'échelle. Donc pour la Cordée solidaire, c'était le 15 décembre dernier, en solidarité avec les migrants et pour raconter les risques qu'ils prennent dans la montagne. Et enfin le témoignage de Destin, qui est un Camerounais qui vit actuellement à Briançon, chez Marcel, dans le lieu chez Marcel, et qui nous raconte comment il est passé par l'Italie pour venir jusqu'à Briançon. Voilà, puisque à 18h30 on fera un plateau radio ici même avec tous migrants pour parler de cette question des migrants dans le Briançonnais.
Super.
Eh bien, merci Pierre pour cette intervention. Pour l'heure, on va vous laisser en compagnie d'une... Non, pas encore ?
Dernier appel.
Ah, dernier appel, pardon.
Alors, Zinzine, 14h, 12h30.
12h30 sur Radio Zinzine, sur le
101.4 à Briançon.
14h sur Radio BAM.
Et alors, 06 comme tous les numéros de téléphone, Pastis... Police, 8 heures.
Et année de la Révolution.
68.
Voilà, on attend vos appels. On vous laisse sur une petite musique et dans 5 minutes, n'hésitez pas à retrouver le chapitre au spectacle juste à côté. On vous dit à très vite. Une bonne soirée à tous et un bon appétit.
Bisous. Bonjour. Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Ça s'est bien passé cette soirée ?
C'était super.
Bon, vous avez eu un peu de monde ?
Un petit peu, ouais.
Un petit peu. Bon.
Je m'appelle Marité, pour les gens qui me connaissent vraiment depuis longtemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je m'appelle Marie-Thérèse Martin. Voilà, et j'ai bientôt 80 ans. Alors mon grand-père était sur la place et mes parents étaient dans la rue des Marronniers. Et puis moi, maintenant, je suis là, voilà.
Vous avez commencé à travailler ici à quel âge ?
Oh là là, ben ici, ben ça fait 49 ans que je suis là. Moi, mes parents avaient déjà le tabac, alors mes parents, ça fait 30 ans. Mon grand-père, je ne sais pas combien d'années, 40. Et moi, ça fait 49 ans que je suis là. Alors, ça fait quelques années, et 3 générations, et ça s'arrête.
Bon, tout le monde va bien ?
Ça va, toi ?
Quelqu'un
voir si c'est meilleur qu'ici.
Oui.
C'est plus de fraîcheur.
Bon. Heureusement qu'il y a les rencontres pour Villard d'Arène. Bon, parce que ça anime un peu l'entrée de la saison. Là, c'est une belle chose. Puis qu'ils viennent depuis combien d'années aussi, hein. Voilà. Avant, on avait notre Yves. Je dis notre Yves parce que il était. Ben, c'était une figure. Mais on a toujours Yves, monsieur Yves. Oh, je perds son nom de famille, tiens. Et puis, Séraphine. Et puis, bon, d'autres que j'oublie leur prénom et que je les reconnais tout de suite quand ils viennent. Je leur dis tout de suite, vous êtes des rencontres, quoi. Non, puis, tous ceux qui viennent aux rencontres, ils sont vraiment sympas, quoi. Voilà.
Alors, 2, 60 et 40, ils font 3, 3 et 2, 5, et 5, 10 et 10, 20.
Écoute, c'est très gentil.
Voilà, c'est moi.
Merci et bonne journée.
Et bien, toi de même.
Eh ben, vous voyez, là, c'est le tabac de ce côté. C'est toute la presse et les souvenirs. Et puis, le bar, ben, y a plein de vitrines avec plein de souvenirs dedans. Voilà. Et puis, j'ai encore un jeu. J'ai encore le baby, parce que j'avais tous les jeux. Puis là, je rends. Ah ben, j'ai encore le billard. Voilà. Autrement, bon, ben. J'ai pas de télé. Je conduis pas. J'ai pas Internet. J'ai pas la carte. Je sais plus, bon, je suis un dinosaure. Voilà. Je vis avec mes clients. C'est eux qui m'annoncent telle personne. Tiens, il va y avoir le Tour de France. Je lis même pas les journaux parce que j'ai un problème de vue. Alors, je veux pas me fatiguer. Moi, personnellement, mon mari aimait bien côté presse parce qu'il aimait lire tout ça. Mais moi, j'aime mieux mon bar. Voilà. De toute façon, j'aime, quoi que ça soit bar ou presse, j'aime bien le contact des gens, puis j'aime bien les clients. Et j'aime bien le contact des gens. Du reste, c'est eux qui m'aident. Avant, je voulais vendre et sans vendre. Mais maintenant, je veux vendre parce que... Et puis surtout cette année, hein, les ans me pèsent. Ouais, puis on a eu un hiver un peu... On avait oublié les hivers rudes. Et là, cette année, on a eu quand même un hiver. Et maintenant, c'est plus la jeunesse. Voilà. Alors, j'aimerais bien, si quelqu'un veut habiter la montagne, Villard-d'Arène. Bon, c'est un petit village, mais bon, qui est quand même agréable. Notre France est belle. Hein. Moi, j'aime pas voyager. J'ai même honte de le dire, je connais pas le lac du Pontet. Mais bon, c'est comme ça.
Le lac du Pontet qui est vraiment juste à côté, c'est ça?
Oh ben oui. Puis tous mes clients veulent m'y emmener, mais bon, comme je veux pas fermer. Alors bon, ben voilà quoi. Oui, oui.
Attention, mesdames et messieurs. Nous accueillons chaleureusement pour le plus grand, le plus authentique, le plus majestueux plateau radio de toutes les Alpes. C'est un privilège, c'est un honneur de vous présenter ce soir la seule, l'unique radio. Par Radio BAM et diffusé sur Radio Zinzi.
Le 15 décembre dernier se tenait à Névache, sur les pentes du col de l'Échelle, la Cordée solidaire. Une manifestation qui a rassemblé près de 300 personnes par moins 15 degrés pour alerter sur les dangers que prennent les migrants en franchissant cette frontière montagneuse.
Bonjour. Je travaille pour les radios associatives. Vous êtes là pour la cordée ou...
Ouais.
Vous êtes pisteur, vous, à Névache, comme c'est indiqué sur votre blouson.
Voilà, exactement. Voilà.
Aujourd'hui, pourquoi participer à cette cordée, installer du matériel comme vous l'avez fait, des feux, etc.
Et bah, parce que j'ai trouvé pas mal de migrants l'hiver dernier en étant sur les pistes au col de l'Échelle, donc voilà, je m'en suis occupé et ouais. Puis du coup, bah, voilà.
Et cet hiver, comment ça se passe? Il y en a d'autres?
Et bah, cet hiver, pour l'instant, il n'y en a pas trop, tellement il y a de neige, et j'espère qu'il n'y en aura pas, parce que là...
Parce que c'est... Quand vous dites vous espérez qu'il n'y en ait pas, qu'est-ce qui risque, qu'est-ce qui...
Bah, avec les quantités de neige qu'il y a, la mort, voilà.
Et vous avez déjà vu des personnes vraiment en grande difficulté? Est-ce que vous avez des choses à raconter de ce point de vue?
Bah ouais, ouais, des gens complètement gelés... Limite, voilà, d'avoir des graves, graves gelures irréversibles aux pieds, des gens à 35 degrés de température corporelle, voilà, épuisés.
Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, alors?
Eh bien, on les récupère, on les met au chaud, on leur donne qu'un truc de chaud à boire, à manger, et puis on les garde au chaud, et puis on les fait redescendre sur Briançon, et à l'hôpital si c'est nécessaire.
J'ai ramené déjà pas mal de monde. Donc si vous voulez poser des questions, Didier il est là, on a ramené tout le monde ensemble, viens Did.
Et même à cette saison-là en ce moment, il y en a aussi.
Même à cette saison, on a ramené déjà.
C'est de la folie là d'essayer de traverser à cette saison.
Didier, on a été partenaire de veille sur le col. Ah,
ouais.
Ouais, viens.
Bonjour.
Bonjour. L'année dernière, on était ensemble au col de l'Échelle, fin janvier. Et c'était ma première maraude, il neigeait, il faisait froid. J'ai dit tout le temps de la monter, et puis là-bas, Didier, j'ai fait dire, mais il n'y aura personne, c'est n'importe quoi, pourquoi veux-tu que les gens y passent? On avait de la neige jusqu'ici, de l'autre côté. J'ai dit, enfin, il n'y aura personne, il n'y aura personne. J'ai pas arrêté de lui dire, c'est bien, on se balade, mais il n'y aura personne. Arrivé là-bas, on voyait rien sur l'Italie, neiger, c'était brouillard.
Et, ouais,
et je lui ai dit encore, bah, de toute façon, on attend parce qu'on a dit qu'on le ferait, on respecte le protocole, mais il n'y aura personne. Et deux minutes après, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, regarde là. Et là, on a ramené cinq personnes, dont trois n'avaient pas de chaussettes, étaient en chaussures de basket de toile,
déjà,
sans chaussettes.
Déjà des chaussettes.
Et qui étaient pour certains incapables de marcher seuls. Donc on a essayé de déclencher les secours, on n'a pas réussi, on est tombé sur les secours italiens. Ils parlaient ni anglais ni français, les secours italiens. Donc après, j'ai essayé avec la radio, une fois qu'on est passé un peu plus de ce côté, d'avoir les secours français, mais ça passait pas, ça coupait. Donc finalement, on a réussi en les faisant boire plusieurs fois, manger plusieurs fois, en changeant les chaussettes, mettant des sacs plastiques autour des chaussettes. On a réussi à les faire revenir jusqu'ici. Il y en a qui ont été hospitalisés de suite. Et il y en a un, Ibrahim, je sais pas si tu as su, là, il était hospitalisé un an après. Il s'est fait opérer des pieds un an après. Parce que nous, on a estimé que ça allait, il bougeait ses pieds, etc. C'était le début, on l'a mis dans une famille au chaud, la famille s'est bien occupée de lui. Donc pour nous, c'est bon, c'était fait. Mais en fait, il a eu des problèmes, ses ongles sont
décarnés,
nécrosés, et donc ça lui faisait des plaies au niveau des pieds, et donc il a été opéré là la semaine dernière.
Qu'il soit arrivé là, c'est grâce à Ismaël qui avait vraiment la grosse caisse physique, quoi. C'est vraiment un gros sportif et il a réussi à faire la trace à tout le monde jusqu'en haut. S'il n'avait pas été là, je pense qu'il serait resté sur le côté versant. Ils sont pas en Italie, ils sont en France, mais sur le versant italien du col, on va dire. Il serait pas arrivé là. Et après, quand ils sont arrivés dans le tunnel, déjà pendant une demi-heure, nous on s'est affairés comme des fous. On les a déshabillés, on a remis des chaussettes, on a séché, on les a hydratés, on leur a donné à manger. On n'a pas arrêté, quoi. Mais on a relevé la tête et on a dit faut y aller tout de suite. Donc là, ça a duré sûrement une demi-heure. Pour arriver jusqu'à la cabane, on a dû mettre encore une petite heure parce que ça brassait. Il y en a qui n'arrivaient plus à marcher. On essayait de joindre les secours, ça ne marchait pas toujours. On a réussi à rentrer à la cabane, donc une heure. On s'est reposé une demi-heure. On avait préparé le feu et tout ça. C'était chaud. On les a à nouveau hydratés, redonnés à manger. Et après, on s'est dit une demi-heure. Si on reste une heure et demie là, il y en a qui ne repartent pas. Donc on est reparti, vu qu'on n'arrivait pas à joindre les secours. On est reparti pour arriver jusqu'à Nevache, quoi. Donc ça a duré, je sais pas, avec eux, ça a duré deux heures et demie. Peut-être plus, même trois heures, on ne se rend pas trop compte, en fait. On n'a pas trop regardé là. C'était tard dans la nuit quand on est rentré, ouais.
On a de la chance, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, il y a du soleil. Ah, oui. Mais vous avez vu quand même comme on avait froid, la petite demi-heure où on a attendu en bas. Immobile, on est très bien équipés. On a mangé, je pense, tous à notre faim. On a dormi à peu près correctement. On n'a pas eu un épuisement physique de mois et d'années précédentes. On a des chaussettes chaudes. Il y en a qui ont été en esclavage pendant les mois et les années qui ont précédé, qui sont physiquement malades, affaiblis, épuisés. Et ils sont dans des conditions où nous-mêmes, bien nourris, bien reposés, on est en souffrance. Donc c'est compliqué, c'est compliqué.
Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. La température, elle est... Hein, parce qu'il y a des jours, c'est moins 20 ici.
Si vous voulez, on marche un peu et puis on rediscute un peu.
Et tous les deux, vous travaillez dans la montagne, c'est votre travail?
Non, Bruno, non, moi un petit peu.
Ça va? Ouais.
Je suis dit Bruno Didier, je voyais Bruno de l'autre côté.
Non, vous voyez. Merci en tout cas.
Ah ouais. C'est ça? Ouais, super. Bah, je vous explique un petit peu, mais il y a les autres qui arrivent, on a reçu un appel radio, c'est pour ça que je suis partie un peu en courant devant pour prévenir mes collègues, mais ça s'est bien passé avec la radio, donc il y a une équipe qui est partie. Donc vous avez vu à la fin de notre discussion, il y a Bruno qui est venu me faire la bise là, qui était en bleu et noir. Vous avez pas vu? Si. Il est pisteur secouriste sur le domaine de ski de fond. Et donc il a reçu un appel de personnes qui sont au niveau des tunnels, donc en France, hein, mais sur le versant un petit peu derrière, et qui a appelé au secours en disant qu'ils étaient là-bas et qu'ils étaient mal. Donc je suis vite passée devant pour voir, déjà pour parler à la radio en même temps, mais si personne pouvait y aller pour prendre de l'avance. Mais mes collègues ont reçu mon message à la radio, où je leur signalais exactement ce que je viens de vous dire. Et donc il y a trois personnes qui ont laissé le groupe à d'autres collègues et qui sont partis vers les tunnels pour essayer de retrouver ces personnes et qui ont prévenu le PGHM, donc c'est les gendarmes de haute montagne, le secours en montagne, en leur disant on va essayer de les trouver, tenez-vous prêts, suivant ce qu'on trouve, on vous dit s'il y a besoin de vous ou pas.
Ouais, c'est le plus rapide.
Les parents de la 3 qui sont montés hier soir, ils sont peut-être vers le tunnel.
Ouais,
c'est l'hélicoptère du PGHM qui vient de passer donc pour aller chercher les migrants qui ont été signalés dans le tunnel juste derrière le col de l'échelle, comme vous avez pu l'entendre précédemment. Les secours sont en route. Et pour ce qui est de la cordée solidaire, eh bien, elle va se rediriger en bas
pour se retrouver autour d'un feu de camp et d'un pique-nique, histoire de continuer à discuter de ce qui se passe ici et de quelles réponses à apporter en termes de solidarité. C'est quand même un succès, hein, avec 300 personnes qui sont venues ce dimanche 17 décembre jusqu'ici.
Moi qui habite Névache, on est sur un gros truc de solidarité, ça, il n'y a pas photo. Et on est jusqu'à une trentaine de gens qui se bougent. On s'est bougé spontanément, progressivement, au fur et à mesure des arrivées. Parce que ce qui est spectaculaire quand même, c'est la cadence des arrivées, quoi. Et ouais, on est très inquiet, ouais, sur la suite, quand tu vois le tas de neige, quand tu vois les
difficultés. Y compris en plein hiver.
Ah ben, il y a eu un appel tout à l'heure, si tu veux, ouais, de demande de secours, là. Hein. Les gars, ils vont passer, enfin les gars et les filles, parce qu'il y a quand même des filles qui passent aussi. Mmh. Et ils vont passer, hein. Et quand tu descends après la chapelle ici de Bonne Rencontre, les premières lumières qu'ils voient sont celles du village de Névache. Ouais. Donc ils se dirigent par là. Et après, à Névache, ils vont toquer à la porte où il y a de la lumière. Alors ça peut être chez moi, ça peut être chez Bernard, chez Paul, chez Jacques, enfin tout le monde, quoi. Ouais. Et puis après, bon, bah, quand il est 20h, qu'il fait mauvais temps, que toi, tu as déjà eu froid dans ta balade de la journée, tu n'oserais pas dire non. Donc tu ouvres la porte, bonjour, au revoir, rentrer. Chacun fait son petit boulot. Il y a des jeunes filles, elles font que nettoyer le linge. Mais c'est super important, ça. Dans le métier, on dit à chacun son Everest, hein. Ce matin encore, il y a des gens qui m'ont donné des habits là au parking pour les migrants. Et on a beaucoup d'affaires, ça va, c'est super ça. On a beaucoup d'affaires, on a beaucoup de... Et en plus, le lien avec Briançon, avec ce que j'appelle le camp de base, moi, le refuge de Briançon, il n'y a aucun problème si on manque de couverture, si on peut habiller des migrants. Hein. On vit une putain de belle aventure, toi. Franchement, c'est une belle aventure.
Pourquoi belle aventure alors? Parce que quand on évoque tout ça, on pense tout de suite aux drames qui peuvent arriver. Il y a des gens qui ont déjà eu des graves soucis de santé à cause de ces gelures, voire des amputations. Est-ce que vous ne vivez pas dans la peur de retrouver des cadavres aussi? Alors pourquoi belle aventure?
Non, la belle aventure, je te parle au village.
Ouais. Mais qu'est-ce que ça crée au village alors?
Eh ben, ça crée de la cohésion. Ouais. Ça crée de la cohésion. Et moi qui suis à Névache depuis 42 ans, c'est une terre de combat ici, hein. Depuis Émilie Carle, on s'est battu sur plein de trucs qui pouvaient détériorer notre vallée. J'ai fait un inventaire, moi, des difficultés techniques, des problèmes auxquels pouvaient être confrontés les migrants. Le catalogue, il est plein. Entre la déshydratation, entre l'hypothermie, entre la faim, le froid, plus la peur du gendarme. Donc non, là, il y a carton plein. Hein. Donc, voilà. Ouais. Et malgré ça, on est inquiet parce que dans les campos en Italie, il y a beaucoup de monde. En Libye, ils sont à peu près 400 000, d'après nos infos. Si tu veux, il peut y avoir une arrivée massive, quoi. Parce que ce qui nous surprend quand même, c'est la cadence, quoi, d'arrivée, quoi. Globalement, c'est des jeunes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu d'obèses. Hein.
C'est combien par jour, par semaine,
voilà. Enfin,
c'est
quoi, cette cadence ? Depuis le 1er juillet, c'est 1600, 1800 migrants à Briançon. Ouais. Parce que tout n'arrive pas par là. Hein. Nous, la cadence, c'est... C'est 4-10 par jour, quoi.
On s'est pas présenté, moi je suis Pierre de Radio Zinzine, et toi du coup
Ouais, Jean-Gabriel Ravary, moi, guide à Névache.
Alors, moi c'est Joël, je suis guide de haute montagne sur Briançon.
Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe, que je vous vois avec le taki-waki, ouais, dans la main?
Alors c'est une radio. C'est une radio.
Ouais.
Et donc a priori, il s'agirait d'une personne, là. Ils ont découvert dans les tunnels côté italien, mais j'ai pas plus d'infos pour l'instant.
D'accord, oui, puisqu'on a vu passer l'hélicoptère du PGHM. Ah, peut-être ça va venir.
Oui, on te reçoit fort et clair. Tu peux appeler l'hôpital qui leur dit que dans 5 minutes on a ramené une personne sécurisée avec probablement les blessés. Ouais.
T'as entendu, c'est le pilote, ça, là, ouais, qui a récupéré des gens avec les pieds gelés, ouais, et il demande au secours de prévenir l'hôpital. Donc tu vas voir l'hélico qui va arriver, ouais, déposé sur le toit de l'hôpital, prise en charge immédiate par les chirurgiens et tout ça. Ouais. Puis après, ce qui se passe...
Ouais, pour Juliette, là, tu peux nous dire où il se trouvait à peu près, là, la victime, là? En fait, deux lacets, enfin un lacet, donc deux portions de route en dessous des tunnels. Elle n'était pas juste dessous les tunnels, elle était encore en dessous, entre deux routes, elle tapait droit dans la pente, en montant. Ok, ça
marche. Pas d'autres personnes sur les lieux.
Il y a
pas mal. On a vu un groupe de 2 ou 3 personnes en raquette sur le col, sur le plat du col de l'échelle. Et ceux qui nous appelaient et qui faisaient signe, là, qui ont signalé, c'est 4 personnes qui étaient juste à la sortie du tunnel en descendant.
Et ça, c'est le 112. Voilà.
Numéro de secours.
Ouais. Alors là, la suite.
Comment ça fonctionne ce 112 ?
Alors le 112, par exemple, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vu les gens il y a une heure grimper dans le col de l'échelle versant vallée étroite, enfin versant italien, et ils en ont conclu que ces gens étaient en difficulté, apparemment des migrants, parce que ça se reconnaît quand même. Et en fait, la personne a eu l'idée de contacter le 112, le secours. Le 112 fait un peu le point de la répartition de... Voilà. L'hélico a posé des secouristes à proximité des personnes, des sinistrés, je dirais, ou des victimes. L'hélico se décolle plus loin. Les gars du secours, que ce soit les PGHM, les gendarmes ou les CRS, suivant la semaine de permanence, s'approchent de la personne. Les pieds gelés, s'ils font un diagnostic.
Mais là, ils sont repartis avec un mec, quand même.
Les secouristes, quand ils sont prêts à évacuer, rappellent l'hélico. Là, l'hélico fait une approche, ils embarquent et l'hélicoptère, tu vois, vient de passer. Et il a demandé à son centre téléphonique à Briançon de prévenir l'hôpital, qu'ils allaient se poser sur le toit de l'hôpital et d'agir en première urgence, en toute urgence, parce que les secouristes sur les lieux ont diagnostiqué des pieds gelés. D'accord. Donc après, si tu veux, là, l'hélico s'arrête sur le toit de l'hôpital. Tout de suite, le système chirurgie, enfin orthopédique d'urgence de l'hôpital se met en route pour soigner les gens. Voilà.
5 mars 2016. Mamadou, jeune Malien, a vécu l'enfer au col de l'échelle. Pris dans une tempête de neige et des températures glaciales, il a été amputé des 2 pieds. Sa tenue, un blouson en sky, un jean, des baskets. Avec son ami, ils ont affronté des conditions extrêmes. Je cite, on avait de la neige jusqu'à la taille, il faisait très très froid, on n'avait pas de gants. Le 19 août 2017, Ibrahim et Moussa ont été grièvement blessés au col de l'échelle. Effrayés par une voiture des forces de l'ordre, c'était au passage des 2 tunnels, les 2 jeunes ont dévalé un ravin de 40 mètres. Aujourd'hui choqué psychologiquement, Ibrahim est partiellement paralysé après être resté dans le coma durant 3 semaines. Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2017, il n'y a pas très longtemps, donc, après une journée continue de chute de neige, 4 jeunes se retrouvent bloqués au col de l'échelle. Ils sont découverts en pleine nuit, frigorifiés, par des randonneurs nocturnes qui déclenchent immédiatement les secours en montagne. Les 4 personnes sont amenées à l'hôpital de Briançon. Chaque semaine, des migrants en hypothermie, avec des gelures aux pieds et aux mains, arrivent à Briançon. Ils risquent d'avoir des séquelles à vie. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que aujourd'hui même, plusieurs migrants étaient en difficulté au col de l'échelle, donc en difficulté, donc en danger, et ils ont été secourus par hélicoptère. Certains risquent d'y laisser leur vie, si ce n'est déjà fait.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Haute-Romanche, la radio éphémère des rencontres de la Haute-Romanche à Villard-d'Arène dans les Hautes-Alpes. On poursuit cette deuxième partie d'émission avec le témoignage de Destin, un Camerounais qui habite désormais à Briançon et qui nous raconte son voyage de l'Italie jusqu'ici.
Destin, je viens du Cameroun. J'étais fier d'arriver en Europe.
puisque vu les problèmes qu'on a eu à traverser du Cameroun jusqu'en Europe, passant par la Libye et tout, la Méditerranée, le désert, on a été très fiers de l'accueil au niveau de l'Italie. Mais il y a eu des choses que nous aimerons que les gens essayent de réfléchir concernant nos droits. Ça me fait très mal que j'arrive en France, on me dit non, tu es en position du Dublin, il faudrait que tu rentres en Italie. Or qu'en fait, quand nous sommes arrivés en Italie, il fallait qu'il y ait un comité sur place qui devait nous recenser par rapport à nos droits, nous faire comprendre que pour ceux qui veulent aller ailleurs, ils peuvent laisser ce problème de signature. Mais ce n'est pas du tout ça. Quand tu arrives, ils te font croire que c'est une obligation. C'est même pour ton bien. Même pas que c'est une obligation, c'est pour ton bien.
Ah, c'est ce qu'on vous a raconté.
Oui, oui.
D'accord.
Étant sur place, on te dit, il faut prendre des empreintes. Quand tu poses la question à savoir pourquoi prendre des empreintes, ils disent non, c'est pour ton bien parce qu'il faut qu'on sache que tu es entré en Europe. À partir de là, c'est comme si tu renaissais. C'est une manière de comprendre que si tu vas ailleurs, on saura au moins par où tu es entré et tout ça. Mais après un certain temps, quand tu vas ailleurs, c'est là où tu constates que non. En fait, c'était une forme de répression. Puisque, réellement parlant, s'ils nous voulaient du bien, ils devaient d'abord nous parler de nos droits.
Quand est-ce que vous avez appris ce règlement de Dublin ? Ici, en arrivant à Briançon, quand est-ce que vous avez su tout ça ?
J'ai appris ce problème de Dublin le jour où je suis arrivé à Briançon. J'ai déjà fait plus d'un an en Europe. Quand je suis venu me positionner, que j'aimerais faire une demande d'asile. Et là, on me fait comprendre que non, si tu as pris des emplois en Italie, c'est que tu es en position de Dublin. Et ça, on m'explique même ce que c'est que le Dublin. Depuis tout ce temps que j'ai passé en Italie, je n'avais jamais entendu parler du Dublin.
Il est concerné par le règlement Dublin. Ce règlement européen impose de laisser ses empreintes dans le premier pays par lequel les migrants arrivent en Europe. Dans ce même pays, ils sont contraints de faire leur demande d'asile. Une disposition contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui considère que chacun peut faire sa demande d'asile dans le pays de son choix. Selon le règlement Dublin, Destin devrait retourner en Italie pour faire sa demande d'asile.
Pourquoi tu n'as pas voulu rester en Italie ?
Il y a plusieurs hypothèses, mais la première, c'est d'abord la langue. Puisque je suis camerounais, chez nous, il y a les langues maternelles, mais nos premières langues nationales, nous avons l'anglais, le français, pour ceux qui vivent du côté francophone, l'anglais pour ceux qui vivent du côté anglophone. J'ai grandi du côté francophone, j'ai fait des études là-bas. J'avais toujours une préférence de vivre en France. Certains amis m'ont conseillé que non, il serait mieux de rester en Italie pour un bout de temps, le temps que tu essayes d'avoir un peu d'argent qui peut te permettre de continuer le chemin. Le deuxième point en Italie, c'est ce problème de racisme. Et je l'ai vécu plusieurs fois en Italie. La première fois, je suis allé dans une boutique. À la sortie, le monsieur se lève, il prend du parfum. Il commence à mettre un peu partout dans la boutique. La première fois, je n'ai pas compris. C'est la deuxième fois que j'ai compris, puisque je suis revenu la deuxième fois. J'arrive, je suis en train de voir la chaussure avec les yeux. Je dis, bon, je voulais prendre une chaussure. Je lui dis, bon, je voulais une chaussure pour le sport et tout. Il me dit, non, on ne vend pas les chaussures pour sport ici. C'est pas, il n'y en a pas. Mais je regarde, je dis, mais c'est comme si... Il dit, non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et cette fois-là, quand je ressors, il remet encore du parfum. La deuxième fois, c'était à l'église. Le monsieur, lui, il était assis. Je viens lui dire, pour la question à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un assis là? Il me dit oui. Du coup, je m'en vais m'asseoir ailleurs. On finit l'église sans que quelqu'un ne s'asseye. La deuxième fois, je suis venu m'asseoir à côté d'une fille. Elle s'est carrément, elle s'est levée. Elle a changé de place.
Alors que vous croyez en le même Dieu?
Oui.
Ouais.
Oui. Elle s'est levée, elle a changé de place.
Ouais.
Et aussi, dans des campos où on vivait, on n'était pas assez bien traité. Il y avait beaucoup de cas. Peut-être tu as un problème de santé. Tu vas, comme j'ai eu un ami qui avait un problème de santé, il avait mal à la dent. Tu viens, on te dit oui, il faut qu'on t'amène à l'hôpital. Tu pars, le docteur te dit non, on va te donner le rendez-vous dans un mois. Tu as mal à la dent, là, on te donne le rendez-vous dans un mois. On ne te donne pas un médicament pour calmer la douleur, rien du tout. On te dit non, il faut revenir dans un mois. Mais là, c'est inhumain. C'est inhumain. Ça nous a fait comprendre que bon, on n'était pas les bienvenus. dit bon, il faudrait mieux qu'on aille se trouver mieux ailleurs, là où déjà je peux dire bonjour, là où je peux dire le dialogue est réciproque.
Ouais.
Tu parles, j'entends, je parle, tu entends. Raison pour laquelle je me suis rendu en France.
Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi Briançon alors?
Ce n'est même pas pourquoi Briançon. Parce que en réalité, quand tu décides de te rendre quelque part, tu dois prendre des renseignements. Tu appelles des gens, tu leur poses des questions. Comment je peux faire pour arriver à tel endroit? Celui-ci a quelqu'un qui est déjà là. Il te propose des idées. Et ensuite, toi, tu choisis quelle sera la bonne. On m'a proposé plusieurs idées et plusieurs routes. Il y a certains qui m'ont dit, passe par Vintimilia. Et tu traverses la montagne. Au niveau de ces montagnes, il y aura des descentes qui seront tellement risquées. Il y a certaines personnes qui tombent souvent et perdent la vie. Quelqu'un d'autre m'a dit non, il faut passer par Briançon, passer déjà à Clavière. Il y a une petite association là-bas qui s'occupe des gens. Déjà là-bas, ils peuvent t'aider. Le temps que tu es là à réfléchir, la stratégie que tu peux utiliser pour traverser la frontière, tu peux déjà avoir où dormir, de quoi manger. Contrairement à Vintimilia, si tu vas, ça ne réussit pas, tu rentres, tu seras obligé de retourner jusqu'à là où tu vivais. S'il faut que tu dormes, ou tu vas dormir dans la rue. La première fois, je suis quitté d'abord à Clavière aux environs de 23h. J'ai fait la route en forêt et puis je suis ressorti par la route. Chaque fois que je voyais un véhicule, je me cachais et tout. Jusqu'à un certain niveau, je suis tombé sous la police. J'étais déjà fatigué. Je m'étais tellement caché. J'avais eu même une petite blessure dans la paume de main. Là, je m'étais tellement caché. J'étais déjà fatigué. J'ai dit bon. En ce moment, c'est un peu plus me cacher. J'avance, si la police me prend, bon, j'y retourne, je me repose. Et puis, je vois ce que je peux faire encore par la suite. Quelques mètres plus tard, la police m'a interpellé. Nous étions trois. Il me dit, il nous pose la question à savoir, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire en France? J'ai dit, ben, c'est là où j'aimerais vivre. Aussi, en Italie, on n'avait pas beaucoup de possibilités d'avenir, donc... On s'est dit peut-être ça serait différent ici. Déjà le fait qu'on parle français, on s'est dit que bon, si tu peux tomber devant quelqu'un de bonne foi qui décide de t'aider. Et là il me dit, ah bon, donc tu viens ici parce que la France c'est pour toi un pays où tu vas venir puiser les ressources, prendre ce que tu veux et puis t'en aller. Bon monsieur, sache que ça ne se passe pas comme ça en France. Tu ne peux pas entrer en France parce que tu n'as pas de documents. Ce n'est pas légal d'entrer en France sans documents. Donc, je vais te ramener à la frontière. C'est comme ça qu'il nous a ramené tous à la frontière. Et on a fait le reste du chemin à pied.
Après avoir été refoulé une première fois par la police à la frontière du Mont-Genèvre, Destin reste quelques jours chez Jésus. Une salle paroissiale squattée à Clavière, le dernier village italien à 2 km de la frontière. Puis il tente un deuxième passage.
Et j'ai mieux réfléchi avant d'engager encore le chemin pour la deuxième fois. Je n'ai croisé personne en passant toujours par la forêt. Mais du coup, le chemin était tellement long parce que je suis quitté aux environs de 20h. Oui, je suis arrivé ici vers 11h. 30 le lendemain. Il y avait certains endroits qui n'étaient pas praticables. Tu arrives quelque part, tu constates qu'il y a un ravin, il n'y a pas de route, il n'y a pas moyen d'avancer. Du coup, il faut que tu retournes. Tu as trouvé le chemin, tu avances et puis tu retournes, tu retrouves encore le même ravin. Il faut encore retourner. Donc, il y avait des chemins, tu faisais le chemin inverse à chaque fois. Oui, tu entrais souvent dans la neige est arrivée même jusqu'au niveau d'ici. Il faut tirer le pied, tout ça.
Genou, ouais.
Oui, au niveau du genou, il faut tirer le pied, tout ça. Et il y avait des endroits aussi glissants. Par moments, tu tombes, tu te relèves, tu continues. Souvent, on se perd même en forêt. Maintenant, le seul repère que tu pouvais avoir, c'est la route. Il faut que tu cherches comment faire pour retrouver la route. Quand je suis arrivé ici, j'ai quand même eu cet accueil à Briançon qui m'a beaucoup aidé. Puis à partir de là, j'ai quand même eu dormi. On m'a donné à manger, on m'a donné de l'eau pour me laver. Et on m'a donné de l'eau à boire, toutes ces choses que je n'ai pas eues durant les 10 à 11 heures de marche que j'ai fait la nuit. Ça m'a beaucoup remonté. Puis j'ai trouvé des gens géniaux en France. Quand tu arrives, les gens te traitent bien. C'est comme si tu vivais déjà depuis plusieurs années. Et puis ils te disent, si tu n'as pas où dormir, il ne serait pas mieux d'avancer. Si tu sais que bon, tu as avancé pour aller dormir dehors, du coup tu peux rester ici le temps de t'organiser ou le temps que nous-mêmes pouvons te trouver un refuge et tout et tout. Quand tu arrives quelque part, tu salues les gens, ils te répondent. Certains gens qui viennent même vers toi, souvent te saluent. Tu es en train de faire même souvent la marche en route. Quelqu'un s'arrête, c'est comment mon ami, tu veux qu'on t'accompagne quelque part.
Venez d'écouter la deuxième émission de Radio Autre Manche. Retrouvez-nous jusqu'au 12 juillet sur les ondes de Radio Zinzine
101.4
à 12h30 et sur Radio BAM
radiobam.fr
à 14h et ce tous les jours durant les rencontres de la Autre Manche. Et aussi retrouvez-nous sur les radioblogs de Arte Radio.
Infos et réservations au
06 98 93 78 79 ou par mail à
contact@rencontre-autremanche.com.
Alors ce soir sur le plateau avec nous, il y a l'association Tous Migrants, Samia.
Représentée par Agnès, Benoît et Justin, qui vit et aide au refuge solidaire de Briançon.
Suivi de Didier Super, qui viendra nous parler, ou non, de son spectacle « Ta vie sera plus moche que la mienne » qui aura lieu ce dimanche à 20h dans le chapiteau spectacle des rencontres de la Autre Manche.
On se retrouve demain sur le plateau, sur les ondes ou sur le podcast si vous le voulez bien.